Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ça va mettre la charrue avant les pluies.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
On venait à Rennes avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé au coup d'envoi. Ça a été fait.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'After, tout le monde, en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs et 24h sur 24 en podcast, toujours avec Roland Courbis, toujours avec Lionel Charbonnier et avec vous au 32-16 pour débriefer la victoire du Paris Saint-Germain à Nantes ce soir, sixième journée de Ligue 1. Supporters nantais, supporters parisiens, appelez-nous, venez débattre, débriefer avec coach et Lionel. On va revenir aussi ce soir sur la victoire de l'OM contre Auxerre cet après-midi, 2-0, la victoire de Lyon face à Angers, 5-0. Et puis, on va prendre des nouvelles des adversaires des clubs français en Coupe d'Europe la semaine prochaine. J-3 avant le début de la Ligue des Champions. La Juventus, l'adversaire du Paris Saint-Germain, a fait un partout contre la Fiorentina. On sera avec Johan Crochet tout à l'heure. Et puis Tottenham, l'adversaire de l'OM mercredi. Tottenham a encore gagné. Julien Laurence viendra nous dire s'il faut s'inquiéter pour l'OM. Sur tous ces sujets, vous le savez, on vous attend les gars. Vous faites le 32-16. Adrien est là au standard. Il prend vos appels. Venez débattre avec l'After. Et puis bien sûr, vous commentez votre émission sur le Direct Studio, sur les applis RMC, RMC Sport. Vous cliquez sur la petite radio en haut à droite. Ensuite, le Direct Studio. Je vois vos messages, vos commentaires en direct et sur Twitter, bien sûr, le hashtag RMC Live. On suit ce soir du foot à l'étranger. Il reste quelques minutes pour le Barça face à Séville, 3-0. C'est la quatrième journée de Liga, 3-0. Non, ça vient de se terminer, voilà. Victoire du Barça, 3-0 contre Séville. Et puis en Italie, le match du soir, victoire du Napoli sur la pelouse de la Lazio, 2-1. Le direct avant de partir sur le foot, c'est aussi le rugby. La Rochelle reçoit Montpellier, c'est la première journée de top 14. Romain Asselin,
26-22, et vous l'entendez sans doute derrière moi, de Flandre qui explose. C'est pas fini, mais il y avait une balle de match pour Montpellier qui avait une touche à 10 mètres de l'embut Rochelais à négocier, et la pénalité grattée par les Rochelais. Ah, ça sent très bon. Il reste 17 secondes avant la sirène. Ils prennent leur temps, les Rochelais. Est-ce qu'ils vont aller prendre une pénale touche? Sans doute, avec Astoy qui va aller dans le camp montpelliérain. Mais désormais, c'est quasiment plié. 26-22 pour la Rochelle qui va s'imposer et démarrer de la meilleure manière possible ce championnat. Il attend la sirène. Il va pas en pénale touche. Directement fin du match. Et voilà, victoire de la Rochelle, 26-22. Mais alors, au forceps, hein, les Rochelais, qui on l'a vécu en direct il y a un instant, ont réussi à repasser devant grâce non pas à un essai de Grégory Aldrit, mais à un essai de pénalité. Victoire 26-22, bonus défensif pour le champion de France en titre. C'est La Rochelle, le champion d'Europe, qui fait la bonne opération.
Merci Romain Asselin, bonne soirée et à très vite sur RMC. Il est 22h55. Commençons cet after Roland Lionel par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Vos trois points de débat ce soir, Lionel.
Eh ben écoute, mon premier point, et je m'en excuse auprès des supporters parisiens, mais je suis perfectionniste et cette équipe-là me plaît énormément. Mais j'aimerais que le PSG aille au bout du bout, se fasse mal davantage, joue différemment. Je trouve que là, ce PSG-là aujourd'hui a surjoué. Alors par facilité, on va me dire, parce qu'il y a le match de Coupe d'Europe et tout ça. Oui, mais le PSG doit s'améliorer dans ce genre de match. Il y a d'autres choses à faire. On pourra en parler tout à l'heure. Mon deuxième point sera pour ces Lyonnais que j'aime beaucoup. L'an passé, 3-0, ils arrêtaient de jouer et puis ils prenaient des buts et parfois même ils étaient bouleversés. Cette année, c'est pas le cas. Même le remplaçant, il marque. Donc, ils vont au bout du bout. Ça, c'est bien. Et mon troisième point, juste pour finir, l'OM ne gagnait pas ce genre de match l'an passé non plus. Et l'OM a franchi un palier, je pense, cette année.
Roland, tes trois points ce soir.
Mais écoute, je te dirais, au risque d'être agaçant, ça fait rien. C'est dans l'intérêt du football et du suspense. Je demande vite qu'il arrive dans le règlement ce carton orange, parce que j'ai des goûts bizarres, mais je préfère voir des matchs avec un petit peu de suspense. Et s'il y a un joueur qui mérite de sortir, il peut sortir 10 minutes et re-rentrer après. Ça se fait dans pratiquement tous les sports collectifs, et le sport collectif le plus important de la planète ne l'a pas. Donc en ce qui concerne ensuite le bon parcours de l'OM, qui a su profiter du calendrier depuis le début de la saison, mais ce calendrier lui permet de prendre confiance en prenant justement ses points. Même chose pour Lyon, qui en plus a un match de retard à Lorient. Donc on va assister autant dans le haut de notre classement et de notre championnat à vraiment un bon sprint final qui évidemment ne commence pas maintenant à plus de 30 matchs de la fin, mais que ce soit dans le haut du tableau ou dans le bas du tableau, on va assister quand même à quelque chose de passionnant. C'est pour ça que si on peut ne pas nous enlever trop souvent du suspense, eh bien ça sera encore très bien pour les passionnés que nous sommes.
Alors je rappelle que c'est le Nantais Fabio qui a été exclu à la 24e pour une faute sur Vitinha, carton rouge. D'ailleurs Vitinha qui est sorti touché, hein, remplacé par Renato Sanchez suite à ce tacle. Au classement,
que ce soit pas trop grave.
Ouais, effectivement, au classement, le Paris Saint-Germain leader avec 16 points. L'OM ex aequo avec 16 points aussi, mais une moins bonne différence de but. Et Lyon est troisième avec 13 points. Comme Lens, ces deux équipes qui ont un match en jeu en retard. Hein, Lyon jouera demain. Lens jouera demain et Lyon a son match en retard contre Lorient. Le 32-16, supporter nantais, supporter parisien, est-ce que Paris est prêt après cette victoire 3-0 ce soir? Toi Lionel, t'étais pas content du match du PSG ce soir, c'est pas ce Paris-là que t'aurais aimé voir en tout cas.
Si, je suis content. Attends, faut pas rigoler. Il gagne 3-0 à Nantes. C'est un très beau PSG. Mais en voulant être perfectionniste j'attends avec impatience la conférence de Galette. Je pense que ce PSG-là a des armes, a d'autres armes. Qu'il faut utiliser, et notamment après ce jeu de qui est excellent, ce jeu de passes courtes pour attirer le que ce soit dans les 16 mètres, que ce soit dans le milieu de terrain, ils attirent le bloc adverse d'un côté. Mais quand tu joues en 3-5-2, le 5 ça sert à utiliser les côtés, et donc en attirant tout un bloc défensif est d'autant plus facile à faire dans ces matchs-là quand t'es à 11 contre 10. Eh ben profite de ta supériorité numérique pour travailler un peu, attirer le bloc adverse d'un côté, notamment côté gauche pour la première mi-temps, et puis balancer à droite, par exemple sur Hakimi. Hakimi qui était tout seul toute la deuxième mi-temps, n'a jamais été utilisé. Si le PSG, et c'est pour ça d'ailleurs, je crois que c'est Xavier qui le disait, quand le PSG utilise cette deuxième arme, c'est-à-dire la transversale côté opposé, je peux te dire que ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts parce que quand tu dois défendre comme ça dans la largeur, alors que tu mets tout ton bloc d'un côté et que dans les 30 derniers mètres, tu peux aller, tu dois aller à l'opposé, défendre, faire 35 mètres avec la vitesse des joueurs du PSG, tous les adversaires vont se prendre des bouillons. Et ça, cette arme-là n'est pas utilisée et ça m'embête quelque part. Je suis sûr que ça embête Galtier. C'est juste ça qui m'embête. Le reste, c'est un très beau Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de souci. Il y a de la gestion. Il y a tout ça. Mais il faut être beaucoup plus, il faut qu'ils aient beaucoup plus d'abnégation.
Pas mal de messages déjà sur le direct studio. Andy qui écrit encore un très beau jeu du PSG avec des passes, 3 touches max. Mais est-ce que ça va suffire pour la Champions League? Yanis qui écrit Vitinha vite, il faut qu'il guérisse avant mardi. On rappelle que le milieu portugais est sorti sur blessure à la 23e. Dans un instant, je prends Marc qui nous a appelé au 32-16. Roland, tu voulais dire un mot avant?
Oui, tout simplement que bon, les regrets que j'ai, et en même temps, je pense que je suis pas le seul dans le sens que les questions se les posent. Tu vois, d'ailleurs, est-ce que ça suffira pour la Champions League, etc., etc. On a eu sur ces dernières semaines, l'exemple d'une équipe qui a réussi à poser quelques problèmes au Paris Saint-Germain, c'est Monaco. Donc avec, si tu veux, une organisation, mais aussi le mécanisme de cette organisation qui n'est pas toujours le même. Il suffit pas de dire on va jouer à trois arrières centraux pour justement poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Mais Monaco, en plus de l'organisation, il y a eu le mécanisme qui a posé des problèmes au Paris Saint-Germain. Et ce soir, quand j'ai vu avec en plus une équipe de Paris Saint-Germain, on peut dire ce qu'on veut, qui est obligée d'avoir la tête au match contre la Juve. Et ce Nantes de ce soir, avec ces deux occasions dans le premier quart d'heure, j'aurais aimé de voir un petit peu ce qui aurait pu se passer, alors que depuis l'expulsion, il n'y a plus l'ombre d'un suspense, et ça me contrarie.
Salut Marc, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16.
Salut Thibaut, salut Lionel, salut coach.
Salut Marc.
Bienvenue
salut
Marc. Dans l'after, Marc, est-ce que tu es un supporter parisien heureux, rassuré, confiant avant le match contre la Juventus dans trois jours?
Écoute, pas si confiant que ça. Je vais faire les trois points si tu me l'accordes.
Bah, bien sûr, avec plaisir.
Parce que victoire logique du PSG, quand le PSG ouvre le score tôt, ça ouvre des espaces et ça lui permet d'être plus à l'aise. Messi fait un très bon match. Mais par contre, ce n'est pas révélateur, puisque avec la réduction à 10, comme l'a dit coach Courbis, ça, ce n'est pas des conditions de Ligue des Champions. Deuxième point, quand les triottes devant, ils ne sont que deux, je me rends compte que c'est beaucoup plus fluide. Ils sont beaucoup plus actifs. Et le troisième, qui est Sarabia, fait le travail un peu besogneux, qui rééquilibre l'équipe. Et troisième point, je trouve que le milieu de terrain...
C'est lui qui récupère sur le but. C'est lui qui vient récupérer le ballon en milieu de terrain.
Et je précise qu'il remplaçait Neymar, qui était sur le banc au coup d'envoi. Vas-y, c'est ton troisième point, Marc.
Et mon troisième point, c'est le milieu de terrain qui m'inquiète beaucoup. Vitinha, c'est une recrue exceptionnelle et on a fait un très très bon choix. Et quand il est là, ça nous permet de croire que ce milieu-là peut tenir. Mais quand il n'est pas là et que c'est Renato Sanchez, moi je ne comprends pas pourquoi Renato Sanchez est là. Qu'il apporte de plus qu'un Ghana Gaze, qu'il apporte de plus qu'un Paredes. Il joue, fait des passes latérales, fait des passes en arrière, appui remise. Il apporte rien. Pas de changement de rythme. Donc moi, je suis très déçu de l'apport de Renato Sanchez et ça m'inquiète.
Commençons, si tu le veux bien, Marc, parce que c'était aussi le petit événement du soir, ton point numéro 2. Parce que voilà, voir l'un des trois démarrer sur le banc. Je précise d'ailleurs que Neymar est rentré à la 62e à la place de Mbappé. Donc, il met Neymar sur le banc, Christophe Galtier. Il fait sortir l'un des trois de devant pendant le match. Voilà, on aurait crié à la révolution il y a quelques mois. Ça, c'est très peu, voire jamais arrivé sous Pochettino. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marc sur le fait que, avec 2 sur 3, c'est bien aussi, voire ça peut être mieux? Roland, Lionel ?
Oui, mais disons que ce que je note, et félicitations à Christophe, donc quand on voit quelque chose de logique, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu te rends compte, Neymar, il est sur le banc. Mais je pense que c'est tout à fait normal et logique de pouvoir se permettre de dire à des grands joueurs, bon allez, on va se partager le boulot ce soir, après on verra ce qu'on se passe. Le match de ce soir est important, mais celui de la Juve, il est encore plus. Donc c'est sincèrement, je dis bravo pour le boulanger Christophe Galtier de nous faire du pain. Donc c'est très très original.
J'ai pas compris la métaphore.
C'est tellement une évidence pour moi de pouvoir dire à un grand joueur, tu vas pas démarrer, que Galtier est suffisamment compétent et mérite suffisamment des compliments, que celui-là, je suis désolé, c'est plutôt ce qui se passait avec Pochettino qui était pas normal, que de voir ce qui se passe ce soir. Donc c'est un événement d'avoir dit à Neymar, tu ne rentreras qu'à la 60e minute, 3 jours avant de jouer contre la Juve. Eh ben bravo Christophe, je dis bravo le boulanger qui fait du pain.
Lionel, t'as apprécié la baguette de Christophe Galtier? Si je puis m'exprimer aussi.
Mais oui, mais bien sûr, mais non seulement j'ai apprécié la baguette de Christophe Galtier, mais surtout il mène à la baguette, si tu veux, il y a pas de souci. par contre, mais ça fait partie du métier aussi que ces joueurs-là soient capables d'accepter d'être sur le banc, qu'un entraîneur dise à ces joueurs-là, les mecs, allez sur le banc. Tout ça, c'est le métier du football. Ça ne devrait pas exister autrement. Et c'est l'anomalie, elle n'est pas aujourd'hui avec Galtier. L'anomalie, elle était avant avec Pochettino ou avec les autres qui ne voulaient pas les mettre sur le banc.
Mais
ou
alors qu'il peut-être. Plus.
Excuse-moi, juste Roland, juste pour finir. Ou alors peut-être parce que Galtier ou Campos, enfin je sais pas, ne veulent plus entendre parler des personnes au-dessus, leur disant je veux que les trois soient sur le terrain tout le temps. Peut-être que ça, c'est fini aussi.
Roland,
mais tu sais, je pense que peut-être c'est fini, mais je me demande toujours si ça l'a déjà été. Donc moi, ce que je regarde, c'est que il y a quand même des stats, ok, en ce qui concerne les buts, en ce qui concerne les passes, et en ce qui concerne les blessures, il y en a aussi des stats qui sont quand même inquiétantes. Et dire à une Neymar que bon, allez, on va être un petit peu prudent. Et parce que bon, allez, l'infirmerie, tu l'as quand même un petit peu visité un peu trop souvent, qu'on va quand même être prudent. Eh bien, ça me paraît être très intelligent d'être prudent. Mmh.
Marc, merci beaucoup d'être passé nous voir dans l'after ce soir.
Je peux faire une dernière remarque. Moi, j'aimerais bien faire, sûr. Par contre, la fin de match, elle m'a pas plu du tout. Ce côté handball où on joue à la baballe, on respecte pas l'adversaire. Le Bayern, quand il faut en mettre 6 ou 7 à Francfort ou à Bochum, ils le font. Et ça, c'est encore une étape que le PSG doit passer, la rigueur indépendamment de l'adversaire.
Ouais, Lionel le soulignait pendant le direct.
C'est mon premier point et ça moi, ça, j'aime pas du tout. Ça dessert le jeu du PSG pour plus tard.
Merci Marc.
Absolument.
On a plein d'appels au 32-16. Passe une bonne soirée, tu reviens quand tu veux. Salut Marc. À bientôt. Vos messages aussi, hein, nombreux sur le direct studio, sur le hashtag RMC Live, sur les trois de devant. Là, c'est intéressant cette compo de départ. Sergio qui écrit le PSG meilleur quand l'un des trois cracks de devant n'est pas là. Sarabia est un joueur sous-estimé et a soulagé Mbappé. Ici, des tâches défensives. Danilo rendra beaucoup de services cette saison. Est-ce que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est compliqué de tirer des conclusions sur le match de ce soir. Les Nantais sont réduits à 10 à la 24e. Ben, mais est-ce que sur
le principe, je suis pas d'accord avec ça.
Sur ce que vous avez vu sur le début de match, Lionel, coach, ouais, votre avis là-dessus sur le.
Moi, enfin. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que le PSG, à partir du moment où les trois jouent ensemble, comme nous l'ont montré, comme ils sont capables de jouer ensemble, ce PSG, tu peux pas t'enlever ces trois-là. Après, bien sûr qu'il y a une articulation différente à l'intérieur de et notamment dans le milieu de terrain et tout ça. Mais les trois, j'ai vu Neymar quand il y avait les trois. Messi, Neymar, ils revenaient défendre. Il y avait un autre état d'esprit. Il y avait non, moi je pense que quand tu peux, ces trois-là sont alignables. Il y a deux matchs en arrière, on disait ah bah ouais, en fin de compte, on peut jouer avec ces trois-là. Maintenant, on se dit ah bah c'est mieux quand il y a pas. Oh putain, on n'est jamais content. On n'est jamais content, mais quand t'en as trois comme ça, qui font le job comme ils doivent faire le job, franchement, faut pas s'en priver. Et je peux te dire, quand t'es adversaire et que t'as les trois, t'as la tête qui bouillonne, hein, ça, et puis le cœur qui bat dans tous les sens.
Hein. Absolument.
Supporter nantais, supporter parisien, le 32-16, n'hésitez pas à venir débattre. C'est ce qu'a fait Lassana, supporter du PSG. Salut Lassana.
Salut les gars.
Bienvenue dans
l'after. Salut Lassana.
Ça va ? Oui, très bien, et toi ?
Ah, moi ça va pas trop, hein. Franchement.
Qu'est-ce qui t'arrive?
J'ai pas aimé ce que j'ai vu ce soir, perso. Je sais pas si je mets le curseur d'exigence un peu trop, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu ce soir. Comme il disait déjà Lionel, un truc que j'ai
vu. Ah bah tu me rassures, Nassana.
Et c'est beaucoup passé par Messi, parce que ce que tu disais, moi c'est beaucoup Messi que je stigmatise pour ça. Les fixations plein axe qui ouvrent les boulevards pour les latéraux, mais Messi s'entête encore à jouer dans l'axe. Alors que t'as fait une fixation plein axe, un appui remise plein axe. Le latéral, il a toute la, il a
un boulevard. Un peu trop, ouais. Je vois l'action dont tu parles. En première mi-temps. Ouais, l'action en première mi-temps.
Sur Hakimi plusieurs fois. Et à la fin, ça fait comme l'année dernière. Hakimi va arrêter de prendre ses boulevards. Parce qu'à chaque fois qu'il prend, il n'est pas servi. Mais si, il dérespecte. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'on fasse.
Alors, il n'y a pas eu que lui, hein. Il n'y a pas eu que lui, quand même, là, ça
ne. Regarde bien. Mais s'il a perdu au moins 5-6 ballons plein axe, si on a affaire à une équipe qui ressort mieux, on peut être en danger. Là, ce qu'on a vu, c'est que Nantes, ils sont pas bien ressortis. C'est qu'on a réussi à récupérer le ballon dans leur moitié de terrain. Mais s'il casse notre premier pressing, on est mort derrière. Et Messi, au moins 5-6 fois plein axe, il perd le ballon. Il essaye même pas de faire un pressing pour venir le récupérer. Moi, Messi, ce soir, il a beau faire deux passes D, j'ai détesté son match. Perso, j'ai détesté son match. À côté de
j'irai pas jusque-là.
À côté de ça, regarde, Sarabia, il joue pas beaucoup. Sarabia, il joue pas beaucoup. Messi, il a fait 70 matchs. Les deux seules fois où il est sorti après la 85e. Pourquoi c'est Sarabia qui sort et pas Messi encore? On est en train de faire avec Messi ce qu'on a fait avec Neymar. On est en train de tout lui donner. Mais Messi, il a fait un match, il a fait ses stats. Sort Messi, laisse Sarabia jouer. Sarabia, depuis le début.
Non, mais il va sortir Messi, là, Sana. Il va sortir Messi.
Même pas
mais
sur moi, j'ai l'impression que Messi.
Tu verras. Il va sortir comme les autres.
Moi, j'espère. Non. Mais moi, j'espère me tromper. Si tu regardes bien Messi, quand il arrive à Paris, au début, il respectait le jeu. Mais là, il se rend compte que c'est facile, un peu comme Neymar. Il se rend compte que c'est facile et ben, il commence à surjouer, à trop en faire. Ce soir, si vous regardez bien, le nombre de fois où il ne respecte pas le jouer en voulant insister plein axe avec Neymar ou avec d'autres à un moment, mais c'est trop.
Lassana, l'avis de.
Il l'a fait aussi avec Mbappé, ouais, c'est
de vrai. Lionel et voilà, parce qu'on ce soir, allons-y, évaluons Messi, mais est-ce que vous êtes aussi sévère que Lassana, coach et Lionel, sur la prestation de Lionel Messi ce soir?
Vas-y, coach, moi non.
Ben, disons que c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de suivre Lassana. Donc, premièrement, Messi, ça reste Messi. Il y a un an de ça, j'ai cru entendre avec mes oreilles de ce soir que Messi était pratiquement fini, terminé, bouilli, cramé. Alors que je pense pas du tout que ça sera le cas. Et que quand je dis ça sera le cas, pourquoi je dis ça sera le cas? Parce que dans les mois à venir, ben, je suis pas étonné du tout et je serai pas étonné du tout que Messi fasse une énorme Coupe du Monde et qu'après la Coupe du Monde, il fasse une énorme saison et amène en Champions League le Paris Saint-Germain très loin. Dernièrement, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il y a une relation avec un entraîneur et des joueurs que tous les passionnés que vous êtes en tant que supporters, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans les discussions. Et il y a des fois des joueurs qui sont pas contents et qui ont peut-être raison aussi de pas être contents. Je te donne un exemple, Lassana. On a vécu un match contre Monaco dernièrement. Je vois un score de 1-1. Je vois Neymar qui est déjà sorti et tout le monde attend un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec Neymar, Mbappé et tout. Et on a Messi qui sort en faisant la gueule à la 87e minute. Mais moi aussi je fais la gueule si je suis Messi, je suis Lionel Messi, un des plus grands joueurs du monde, avec tous mes ballons d'or et tout. Et si tu me sors à 3-0 comme ça se passe avec Neymar le dernier match contre Toulouse, mais tu, si tu fais la gueule, ben tu vas un peu te faire voir. Mais si par exemple tu fais la gueule quand tu es Messi, quand tu dis tiens, je pouvais peut-être avec mon talent trouver une solution dans les 5 dernières minutes de Monaco, on était un partout. Ben, je fais la gueule que mon entraîneur ne pense pas comme moi. Voilà, c'est tout.
Et si t'es Kerrer, tu fais moins la gueule ou pas?
donc, c'est pour ça que je dis, on n'est pas au courant des accords qu'il y a entre joueurs et entraîneurs.
Et juste pour vous dire, là, Christophe Galtier vient de réagir sur cette rotation au micro du diffuseur de Canal en expliquant qu'il en avait parlé avec les trois de devant, en leur disant que c'était
j'étais pas au courant.
Obligatoire, qu'il y avait des matchs tous les trois jours et que c'était comme ça, qu'il fallait garder une bonne attitude parce que exactement ce serait l'obligation de tourner. Et chose importante, il a parlé de Vitinha aussi, hein. Je rappelle Vitinha sorti sur blessure après le gros tacle de Fabio, le tacle du carton rouge, il avait l'air touché au genou, donc c'est un coup, précise Galtier là au micro de Canal, pas de torsion, donc a priori faudra attendre un petit peu, mais moins coup
ça,
sur
ça
le
devait,
tendon,
ça voilà, devait être douloureux mais pas grave du tout.
Lionel, ton avis sur le Messi ce soir là?
Je suis d'accord avec Lassana sur deux ou trois occasions sur les 90 minutes. Par contre, stigmatisé sur lui, non, je suis pas d'accord. Et au contraire, c'est une arme. Le fait que Messi soit et cette capacité de jouer dans des petits espaces, il a trouvé des espaces, il trouve des trucs introuvables pour n'importe quel autre joueur au monde. Lui te trouve ça, c'est une arme fabuleuse. Après, quand la balle ressort, par contre, une fois que t'as Messi qui vient, t'as trois joueurs, quatre joueurs qui s'accumulent là. C'est quatre joueurs qui viennent là, qui sont en défense normalement. S'ils s'accumulent autour du ballon, ça veut dire qui libère des espaces de l'autre côté. Et moi, ce que je reproche, c'est que derrière, une fois que lui a créé ça, il faut créer une articulation, comme quoi tu dois ressortir la balle, une animation, comme quoi la balle doit ressortir et aller trouver l'opposé. Ça, je suis parfait. Ça, cette arme-là, c'est là où je reproche c'est ce que je reproche aujourd'hui au PSG, s'habituer à faire ça. Profiter de cette arme fabuleuse que t'apporte Messi, Neymar. On les a vus, les combinaisons Neymar, Messi, Messi, Neymar en début de championnat. C'était fabuleux. Ils jouaient jamais à plus de 20 mètres l'un de l'autre. Quand ils sont là, les deux là, t'as 5 joueurs adverses qui sont là. Mais ils peuvent pas défendre à 5 sur 2 joueurs. Ça veut dire que t'as 3 joueurs de ton équipe qui sont libres de l'autre côté. C'est mathématique. Exploitons-les.
Et autre chose, dans les choix d'un entraîneur, il y a quand même aussi des entraîneurs expérimentés, comme peut l'être maintenant Christophe, qui sont au courant qu'il y a certaines blessures qui n'arrivent pas par hasard. Un joueur en pleine forme est un joueur à risque. Et aujourd'hui, Neymar, on touche du bois, on sait très bien que ça n'a pas quand même été Tarzan hein, sur les 5 dernières années. Donc il a fréquenté l'infirmerie. Donc et là, de le mettre avec prudence sur le banc ce soir et de se mettre d'accord avec lui qui rentrera les 30 dernières minutes, mais je trouve que c'est très très bien joué de la part de Christophe.
Vous écoutez l'After sur RMC avec Roland Courbis et Lionel Charbonnier, vous commentez l'émission en direct jusqu'à minuit sur le hashtag RMC Live, sur le direct studio, sur les applis RMC, RMC Sport ou au 32-16. Supporter nantais, parisien, tout à l'heure on parlera de l'OM, de l'Olympique Lyonnais, vous pouvez nous appeler supporter de ces clubs au 32-16. Lassana est toujours avec nous. Messi, c'est quand même deux passes D hein, ce soir. Bon, on sait qu'on peut pas réduire, évidemment. C'est juste, je le précise.
Ami l'a dit, la prestation.
Moi, j'avais juste une dernière question.
Vas-y, Lassana.
En début de saison, Paris, ils jouaient en 3-4-2-1, moi je trouvais, parce que Neymar et Messi, ils redescendaient beaucoup dans le cœur du jeu et ils changeaient pas mal avec Vitinha Verratti. Ça veut dire qu'on avait 4 joueurs vraiment pour faire circuler le ballon. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est passé en 3-4-3 et Neymar et Messi se retrouvent un peu plus éloignés. Ils sont un peu plus chacun sur leur côté, même s'ils rentrent beaucoup.
Je suis d'accord.
Ils sont moins proches que ce que c'était au début de saison.
Je suis d'accord.
Et ça permet moins des échanges de balles. Et je trouve ça vraiment dommage.
Ouais, mais ce soir, tu peux. C'est difficile.
Lionel, c'est difficile de faire la
comparaison. Neymar, il n'y est pas au début.
C'est pour ça. Non, c'est pour ça. C'est parce que.
Lassana aurait aimé.
Lassana, je pense, aurait aimé les voir beaucoup plus près lorsque Neymar est rentré. Mais c'est compliqué parce que tu désorganises complètement l'organisation au début.
Mais s'ils jouent
tous les deux dès le départ, je pense que Galtier va s'en tenir à ce qu'il avait fait dès le début et ce que ses joueurs avaient montré en jouant très proche l'un de l'autre.
Mais voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que tu as 3 joueurs exceptionnels, hein. Donc Mbappé, Messi et Neymar, tu as des problèmes pour certains, hein, surtout pas moi, de les faire jouer ensemble. J'entends même que ça serait peut-être mieux qu'il y ait simplement 2 sur 3. Là, je trouve que quand même c'est un petit peu un caprice de riche, tu vois. Donc oui, c'est vrai.
Mais je crois qu'on est resté, Roland.
Et ensuite, attends, excuse-moi. Ensuite, il y a un truc que j'aimerais vous faire remarquer, vous me dites si on est d'accord. Quel que soit le positionnement, Mbappé dans l'axe, Neymar à droite, Messi à gauche et tout, dans ces 3 joueurs-là, qui sont aussi talentueux qu'on peut s'imaginer, il n'y a pas de numéro 9. Et malgré qu'il n'y ait pas de numéro 9, le numéro 9 de l'effectif de Paris Saint-Germain, c'est pas Sarabia non plus, c'est Ekitike éventuellement. Donc malgré qu'il n'y ait pas de numéro 9, ces 3 joueurs associés sont tout simplement monstrueux.
Et Roland, Mbappé maintenant, on peut quand même dire qu'il fait le job en numéro 9.
Mais il fait le job en numéro 9, bien évidemment. Mais si tu me dis, je construis une équipe, j'ai n'importe quelle somme d'argent, eh ben je prends Haaland et je prends Haaland en numéro 9 et je prends Mbappé en retrait d'Haaland. Je mets pas Mbappé en numéro 9.
Lassana, merci beaucoup d'être passé dans l'after ce soir.
C'est cool.
Salut Lassana. Et à très vite, bon week-end. Bye bye Lassana.
Et si par exemple tu me remplaces Haaland par Lewandowski, ben tant pis pour toi. Je fais pas la gueule.
Oh, il est sympa ce coach. Tu restes.
Moi aussi, je peux être un enfant gâté facilement, hein, suivant les noms que tu me donnes.
Roland Courbis, Lionel Charbonnier, c'est l'after en direct jusqu'à minuit. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé ce soir 3-0 contre Nantes, doublé de Mbappé, 3e but de Nuno Mendes, Paris qui jouera mardi au Parc des Princes contre la Juventus Turin, son premier match de phase de poule de Ligue des Champions. La Juve qui a joué aussi aujourd'hui. Bonsoir Yoann Crochet.
Salut les gars, bonsoir.
Salut Yoann.
Merci Yoann d'être avec nous ce soir Yoann. Alors toi, il y a beaucoup d'actu chez toi parce qu'il y avait aussi un gros match ce soir, on en dira un mot, mais la Juventus a été à Florence cet après-midi. Match nul contre la Fiorentina, un partout. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dernier match de la Juve avant
le but de Milik.
Ah oui, ben voilà, par exemple, avant le PSG, Johan.
Un super match de la Juve, un jeu très offensif, fléché. Non, je plaisante.
On n'a pas vu la même chose alors.
Les semaines se suivent et se ressemblent pour la Juve, pour ses supporters qui sont un peu en crise d'angoisse depuis pas mal de temps maintenant. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui ressemble à tout sauf à une équipe qui joue le tableau. On a une équipe avec un jeu ancestral, on a une équipe qui ne progresse pas dans le jeu, on a une équipe qui a une mentalité, en Italie on dit mentalité provinciale, c'est-à-dire que c'est de moins en moins vrai, mais cette mentalité des petites équipes de province qui se couchaient face aux gros et qui n'osaient pas sortir de leur moitié de terrain, ben c'est un peu la mentalité qu'a la Juve aujourd'hui. Et c'est un vrai problème parce que quand t'es la Juve, quand t'as sans doute le meilleur effectif d'Italie, tu peux pas faire des matchs comme on voit depuis le début de la saison. Encore aujourd'hui à Florence, on n'a pas beaucoup le temps ce soir, mais je vais vous donner quelques éléments. Il faut quand même se rendre compte que la Juve n'a pas fait un seul tir en deuxième mi-temps. Il faut se rendre compte que sur la possession de balle de l'équipe, qui est évidemment très inférieure à celle de la Fiorentina, donc c'était un 60-40, sur les 40% de possession de la balle de la Juve, il y a 84% de cette possession-là qui est dans sa propre moitié de terrain. Mmh. Quand vous regardez un peu les datas du match, sur la deuxième mi-temps, la position moyenne des joueurs, ils sont tous dans la moitié de terrain de la Juve. Voilà, vous avez une équipe qui subit, une équipe qui ne sait absolument pas quoi faire avec le ballon. C'est quand même problématique quand on voit la qualité des joueurs. C'est un peu problématique quand on voit un peu ce qui est, ce qu'ambitionne le club cette saison.
C'est quoi l'organisation de la Juve?
Bah, l'organisation, c'est un. Alors là, notre ami Allegri, l'année dernière, avait pas mal changé, avait mis plusieurs systèmes en place avec ballon, sans ballon. Là, c'est essentiellement un 4-3-3. Avec un milieu à 3 qui est un peu nouveau pour Allegri.
Il y avait Paredes aujourd'hui, hein.
Paredes est devant la défense.
D'ailleurs.
Bah, Paredes, il fait un bon début de match. La Juve fait 10 minutes, 15 minutes qui sont bonnes. Le problème de la Juve et la chance qu'elle a Juve, enfin, c'est même pas la chance, c'est un talent parce que ça arrive quand même régulièrement, c'est que depuis le début de la saison, ils ont la chance, enfin, l'opportunité de marquer très rapidement dans un match. Sauf que généralement ça dure, alors les meilleurs moments ça dure 30 minutes, 40 minutes où t'es à peu près bon, et puis les soirs comme aujourd'hui, enfin les après-midi comme aujourd'hui, ça dure 10 minutes quoi, et tu peux pas te faire trimballer comme tu t'es fait trimballer aujourd'hui par la Fiorentina, parce que quand tu regardes les deux effectifs, il y a un écart qui est monstre.
Toi qui as l'habitude, Johan, justement de voir un petit peu ce qui se passe, puisque bon, je regarde moi aussi cet après-midi, on avait plusieurs télés, on essayait de voir plusieurs matchs, et notamment celui de la Juve, parce qu'on sait très bien que ça va être contre le Paris Saint-Germain, après Tottenham aussi contre l'OM. On a vu de bonnes choses, de moins bonnes choses. Ce qui se passe aujourd'hui à la Juve, sincèrement, est-ce que tu penses que la Juve va être avec cette organisation complètement désorganisée, ou au contraire, ils vont avoir les vidéos, les rapports, les machins de ce qu'a pu faire Monaco au Parc des Princes pour essayer de faire à peu près la même chose pour pouvoir un petit peu copier, pour poser au moins des problèmes au Paris Saint-Germain, parce que cette Juve de cet après-midi peuvent en prendre quatre. Hein.
Ah oui, mais totalement. Alors bien sûr qu'ils vont avoir des rapports sur l'étude de l'adversaire, etc., mais le Paris Saint-Germain aussi. Le Paris Saint-Germain, s'ils regardent le match de cet après-midi, mais ils peuvent regarder aussi la première demi-heure d'un Sassuolo bis lors de la première journée, ils se disent qu'il suffit de mettre un petit peu de pression et de gêner leur sortie de balle. Il n'y a plus rien derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Juve attaque mal, et peu d'ailleurs, et la Juve défend mal. Donc il n'y a aucune des deux phases de jeu prioritaires qui sont bien effectuées, bien réalisées, bien exécutées. Donc ça devient un vrai problème. Il n'y a quand même pas grand-chose de positif à retirer de ce qu'on voit. Et moi, je vois deux scénarios pour mardi. Ça va être très simple, en fait. C'est soit, je vais reprendre les deux matchs contre Chelsea. Là, ils sont passés en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'était déjà avec Massimiliano Allegri sur le banc. Soit tu fais le match aller où tu as deux tirs, un cadré, 25% du temps le ballon, et c'est un hold-up et tu gagnes 1-0. Soit, et ça, c'est un miracle, et le miracle ne viendra pas deux fois, arrivera pas deux fois. Soit c'est le match retour, et le miracle n'a pas eu lieu au match retour, c'est tu te prends une raclée 4-0 à Londres, où ça aurait pu faire 6-0 sans aucun problème. Voilà, c'est comme ça. Après, Allegri, lui, il était content à la fin du match. Il a dit on a fait un bon match. Il a quand même dit, je le précise bien, on a fait un bon match.
Déjà la semaine dernière, hein. Déjà la semaine dernière, il disait que la deuxième mi-temps, je crois, était beaucoup mieux, ou l'inverse, je sais plus. Il y avait une mi-temps seulement.
C'était contre la Roma. Alors mi-temps bien, une mi-temps moins bien.
Exactement, contre la Roma.
Mais tu sais que Lionel, après le 4-0 à Londres, il avait quand même dit qu'on a fait une bonne première mi-temps. Ils avaient pas vu le jour. Ils viennent de prendre 4-0 à Londres contre Chelsea et il nous sort, on a fait un bon match.
Comment tu veux progresser?
Mais tu peux pas progresser. Mais je vais dire un truc qui est très simple. Avant le match contre la Sampdoria, conférence de presse, j'ai l'habitude d'écouter les conférences de presse des principaux entraîneurs en Italie. Massimiliano Allegri dit clairement que lui, les entraînements, ça ne l'intéresse pas. Il n'aime pas les semaines d'entraînement parce qu'on l'interrogeait sur vous allez rentrer dans un cycle où vous allez jouer tous les trois jours. Et lui, il dit c'est génial. Moi, j'aime les matchs. Les entraînements, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça. Vous avez déjà entendu beaucoup d'entraîneurs qui vous expliquent.
Moi, l'entraîneur, il m'a toujours dit l'inverse.
Là, ce qu'il veut dire par là, c'est les entraînements de début de saison, quand il faut faire ce programme physique et athlétique.
Non, c'est pas ça. Lui, il explique clairement. Il n'aime pas les entraînements et il précise.
Quand j'entends des entraîneurs qui disent qu'ils adorent
la semaine du lundi au samedi parce qu'ils n'ont pas les matchs, la tension du match, etc. Et ils aiment bien travailler avec leurs joueurs, etc. Lui dit, moi, je vis que pour le match. Donc, je vis pour le samedi et le dimanche.
Mais pour vivre pour le match, cette espèce, j'allais dire, cette espèce d'idiot, tu vois, cette espèce de faux intelligent. Donc, sincèrement, il réfléchit bien à ce qu'il dit, parce qu'il est quand même écouté et entendu. Une équipe, ça se règle dans la semaine, sur le plan de l'organisation, que ce soit défensivement ou offensivement, les déplacements, le mécanisme, tout ça, ça fait partie du travail de la semaine où tu prépares justement le match. Si tu te pointes directement au match et en disant la composition d'équipe sans rien préciser aux joueurs, ne sois pas surpris si ton équipe le joue mal, c'est le contraire qui sera normal.
Alors il y a une phrase très célèbre,
s'il te plaît, vas-y très vite.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment. Vas-y.
On joue comme on s'entraîne. Bah, si la Juve joue comme ça, comment elle s'entraîne aujourd'hui?
Réponse en tout cas pour ce Paris Saint-Germain Juventus Turin.
Elle s'entraîne pas.
Mardi 20h45 sur RMC au Parc des Princes pour ce premier match de poule de Ligue des Champions. Johan, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un mot en 30 secondes? Je vais me faire engueuler par Maxime parce qu'on est très en retard à la prod. Mais on a quand même un AC Milan Inter qui lui a envoyé cet après-midi avec un but de Giroud pour la victoire du Milan.
Exactement, c'était un super match. Là, on avait un rythme et un niveau européen, donc c'est très intéressant, évidemment. On a eu un super match, on a une équipe de l'Inter qui est quand même en grande difficulté, mais même en grande difficulté, finalement, on était plus proche d'un 3-3 en fin de match que d'un 4-2. Mais globalement, on a vu encore un Leao extraordinaire, un McManian décisif. On a vu un Tonali, Bennacer au milieu de terrain du côté du Milan qui ont régné sur le milieu de terrain, donc très positif pour le Milan. Pour l'Inter, on commence à avoir quelques petites interrogations.
Et Giroud qui aggrave son cas. il a pas compris que pour être sélectionné, il faut pas qu'il marque. Et lui, il marque presque à tous les matchs. Il est emmerdant quand même.
Il marque souvent dans le derby.
Je te jure.
Il va finir par y être.
Mais non, il n'arrête pas de marquer.
Oui, c'est vrai, c'est quand il n'y marquait pas qu'il est
derby. Mais oui, enfin.
Johan, pas toi non plus. Merci beaucoup. Bonne soirée, messieurs. À très vite. Bye bye.
Ciao. Salut, Johan.
23h29. L'after est là en direct jusqu'à minuit avec Roland Courbis, avec Lionel Charbonnier, avec vous, bien sûr, sur le direct studio. Je vois vos nombreux messages pour commenter l'émission sur le hashtag RMC Live et au 32-16. Dans un instant, l'OM au programme. Marseille vainqueur à Auxerre cet après-midi, 2-0. L'OM est-il prêt pour la Ligue des Champions? Supporters marseillais, on vous attend au 32-16 et je lis vos commentaires sur le direct studio. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
23h33, merci d'être là avec Roland Courbis et Lionel Charbonnier. Nous sommes samedi soir en direct jusqu'à minuit. Première partie de l'after consacrée à la victoire du Paris Saint-Germain sur Nantes ce soir, 3-0, à retrouver en podcast évidemment. Paris prêt ou pas pour la Ligue des Champions? Un peu pour la même question pour l'Olympique de Marseille qui s'est imposé cet après-midi face à l'AJ Auxerre, victoire 2-0 grâce à Gerson et Alexis Sanchez, l'OM co-leader, moins bonne différence de but, donc deuxième et le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Est-ce que l'OM est prêt, supporter marseillais? N'hésitez pas, le 32-16, on sera avec Julien Laurence tout à l'heure qui nous parlera de Tottenham, l'adversaire de l'OM en Ligue des Champions, mercredi soir. Lionel, coach, cet Olympique de Marseille, on a ce mercato qui a été important, dont on a beaucoup parlé, puis les prestations de l'équipe du Gore Tudor. Est-ce que vous jugez l'Olympique de Marseille prêt pour la Ligue des Champions et ce match contre Tottenham?
Je pense que on le voit. En ce qui concerne les prestations, je trouve que c'est très bien depuis le début. Alors évidemment qu'on constatait aujourd'hui qu'en ce qui concerne le calendrier et les adversaires jusqu'à aujourd'hui, il y a si tu veux des équipes moyennes que l'OM a rencontrées, mais ça fait rien. Les points, il faut les prendre, c'est pas facile. Et justement de les prendre, même si je me rappelle d'un match contre Nantes où ils sont un partout. Gigot se fait expulser, tu te dis bon allez finalement allez, si on termine un partout, et non, tu te débrouilles quand même de gagner ce match-là. Donc il y a cette réussite que tu vas chercher qui est quand même très très intéressante. Et là, justement, d'avoir pris confiance dans ces matchs-là avec plusieurs formules, parce qu'il y a quand même chaque fois 4 ou 5 changements qui sont faits très intelligemment par Tudor, je serais très surpris que l'OM ne fasse pas un gros match contre Tottenham. Avec une certaine solidité, je regardais le match d'aujourd'hui, mais c'est un match très sérieux que fait l'OM contre une équipe d'Auxerre pas mal du tout. Je les ai même trouvés surprenants. Donc, qu'après, il puisse ne pas y avoir de résultats positifs, et encore, on se dit pourquoi pas, mais ça fait rien. Je serais, moi, très déçu de ne pas voir l'OM terminer seconde de ce groupe.
Lionel, est-ce que tu partages l'avis de coach ?
Oui, complètement. Je pense que l'OM ne pouvait pas mieux préparer son entrée en Europe que comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Ce genre de match contre la JA l'année dernière, mais ils étaient capables de ne pas les gagner. Tout simplement à 1-0, que l'OM commence fort, ça ils ont souvent commencé fort et puis marqué, et puis après ils pouvaient se laisser surprendre en déjouant un petit peu, et là c'est plus le cas. Alors là, ils ont déjoué parce qu'il y a eu à un moment donné à 1-0, au deuxième mi-temps, il y a des occasions auxerroises, il y a des 1 contre 1 à jouer, elles ne sont pas rentrées. Alors ces mêmes occasions, bien évidemment, contre Tottenham, il y a de grandes chances que tu les prennes au fond.
Kane et Son ne les manqueront peut-être pas, mais...
Ouais, voilà. Après, ça ne va peut-être pas arriver comme ça contre Tottenham. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, avant, ils prenaient ces buts-là. Là, contre la JA, ils les ont pas pris. C'est quelque chose de différent par rapport à l'an passé. Moi, j'aime beaucoup. Après, quand tu regardes la profondeur d'effectif, moi, ça me plaît beaucoup. Tu t'imagines quand t'es latéral aujourd'hui que t'as Klose. Il faut que tu t'occupes de ton couloir, ta Klose, et après t'as Nuno Mendes, Tavares, qui arrive sur le côté, tu peux te gratter la tête, tu dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc la profondeur, et puis t'en as un qui sort, t'as Suarez qui sort, et puis
Alexis Sanchez qui rentre.
Alexis Sanchez qui rentre et qui marque. Le
petit Harit aussi était intéressant.
Mais bien sûr, Amin Harit, mais il a toujours été intéressant. Enfin, moi, personnellement, il m'a toujours plu. Donc, non, entre la profondeur de banc, ce qui est mis à l'intérieur de, le mental qui est mis à l'intérieur dans la construction des matchs et tout ça, pour moi, ils ne pouvaient pas préparer mieux leur entrée en Europe.
Supporter marseillais, je vous attends au 32-16. Farid nous a appelé et arrive dans un instant à l'antenne. Juste, écoutez, Tudor, parce que la question lui a été posée au coach marseillais. Prêt ou pas pour la Ligue des Champions? Igor Tudor.
We are ready. I don't know, we are ready for...
Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Nous avons pas mal de joueurs en forme en ce moment. C'est une compétition fantastique qui se joue sur plusieurs mois. Nous voulons faire les choses bien en équipe. Notre résultat dépendra de tout ça. Il faut surtout faire un bon match.
We need to try to make one good game there.
Igor Tudor, aujourd'hui, en conférence de presse. Farid est là, supporter de l'OM. Salut Farid.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue dans la salle.
Salut Farid.
Salut coach, salut Lionel.
Tout va bien Farid, t'es en forme?
Oui, la forme, bien sûr. Passé une belle après-midi avec une belle victoire, bien maîtrisée.
Bon, tout le monde a l'air d'être plutôt serein ici. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que tu partages cette sérénité avant le premier match de l'OM en Ligue des Champions?
Bon, être serein face
serein,
à...
Serein, c'est un grand mot.
Serein, c'est un grand mot. Optimiste?
Oui.
Optimiste,
non, mais face à Tottenham, serein face à Tottenham, c'est un grand mot. Mais bon, c'est mieux, ouais, je trouve que c'est une bonne, c'est une bonne préparation serein, quand même, pour aller les...
C'est quand même ce qui se dégage de vos analyses, les gars. Vous avez le droit de l'être, pas de soucis.
Déjà, bon,
non,
ce qu'on peut faire avant ce match...
Farid, vas-y.
Ce qu'on peut faire avant ce match, c'est bien sûr une analyse des six premières journées de Ligue 1, pour voir où est-ce qu'on en est au niveau national.
Et quand tu fais l'analyse de ces six premiers matchs contre les adversaires que l'OM a rencontrés, c'est quoi ton analyse?
Bon, analyse, coach, c'est que pour moi, la hiérarchie des défenseurs centraux, elle n'est pas clairement dégagée.
Absolument, oui.
Absolument, coach. Vous voyez, aujourd'hui...
Après, Saliba, Perez, Camara, ça ne se remplace pas facilement. Hein.
Ça ne se remplace pas facilement. Bon, après, on sait que bon, c'est souvent des associations et que les associations... Bon, moi, un gars comme Koladzinak, là, après son match la semaine dernière à Nice, le match qu'il a fait aujourd'hui à Auxerre, Bon, est-ce que ce gars a gagné une place de titulaire pour mercredi soir, quoi?
En tout cas, aujourd'hui, il était titulaire plutôt dans l'axe, alors que l'année dernière, on le voyait dans un couloir. Il fait plutôt un bon match.
Je veux dire, si on parle de prêt, pas prêt, déjà qu'on essaie de dégager un 11, en discutant comme ça, hein, en analysant le début de saison, notre 11, avec quel 11 on va se présenter à Tottenham? Moi, pour moi, Koladinac, on sait qu'il y a la compétitivité. Dans un groupe, il y a toujours de la compétitivité, de la concurrence. Et le coach, il doit respecter cette concurrence. Et moi, Koladinac, moi, pour moi, mercredi, il doit être titulaire, hein, ce poste d'axe gauche. Hein.
Ouais. Et il a beaucoup fait tourner aujourd'hui Tudor, donc Kolasinac effectivement était titulaire en défense à côté de Balerdi et Bemba. Il a mis Caboré à droite, Klos à gauche. À la mi-temps, Klos a laissé sa place à Nuno Tavares. Et puis devant, c'était Gerson, Under et Luis Suarez. Donc beaucoup de changements aujourd'hui.
Là, tu sens en gros comme une maison qu'il y a eu une discussion avec les deux et que Klos et Tavares, on en parlait tout à l'heure de se partager le boulot, se sont partagés le boulot 45-45. Et ils savaient déjà chacun qu'ils allaient jouer que 45. Ce qui fait que le joueur n'a pas besoin d'économiser ses efforts. Il sait très bien que il peut aller pendant 45 minutes à fond la caisse, monter, descendre, et après aller prendre une bonne douche. Mais pour en revenir aux arrières centraux, ben, j'espère que ce Bailly qui arrive de Manchester United, ben, s'impose et soit très bon. Puisqu'on peut toujours se poser la question, le pourquoi il est libéré par Manchester United. Et c'est vrai qu'il est indispensable d'avoir trois bons arrières centraux. Ça, c'est indispensable. Les joueurs du milieu, il y en a tellement avec des profils différents que je pense qu'avec des changements de la rotation et tout, là, il va y avoir un secteur qui va être... très très performant pour moi. Et après devant c'est compliqué. Tiens un exemple, quand on parle de blessures, quand on parle de joueurs en forme, le cas Payet, pourquoi si pourquoi là pour Manchester, ben il a joué, il est rentré, ben il s'est blessé, donc c'est pour ça que quand on entendait qu'il n'était pas encore en grande forme, eh ben c'était de la prudence, c'est tout.
Juste pour conclure, et on sera avec Julien Laurence dans quelques secondes qui nous parlera de Tottenham qui a gagné encore cet après-midi. J'entends votre, alors je sais pas comment sérénité, c'est beaucoup dire, mais bon, cet optimisme et d'ailleurs je le partage. C'est vrai que l'Olympique de Marseille est deuxième du classement, mais quand même. Le calendrier, je vous rappelle les adversaires de l'OM jusqu'à présent. Reims, Brest, Nantes, Nice, Clermont et Auxerre cet après-midi. Mercredi prochain, c'est Tottenham.
Nice, trois jours après des prolongations en Coupe
d'Europe, effectivement.
Ouais, mais il faut regarder le contenu quand même.
On voit le contenu, mais est-ce qu'on peut dire quand même que l'OM n'a pas pu tester son équipe contre
un gros?
Ah oui, contre un gros. La marche va être violente quand même de se retrouver face à Tottenham.
Bien sûr, mais ils se sont mis la difficulté. Ils sont allés chercher la difficulté. Ils ont essayé de mettre de l'intensité à chaque fois. Même, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le PSG. Même contre les petites équipes, Marseille met du rythme et essaie de garder ce rythme longtemps. Petites équipes entre guillemets. Hein, quand je compare à Tottenham. Hein. Oui. Et donc ça c'est quand même quelque chose et il gagne ses matchs et va au bout du bout. Les remplaçants rentrent et gagnent les matchs. Ces matchs là ils se gagnent avec les remplaçants, maintenant on le sait. Et pour moi je reste persuadé. Alors Tottenham, t'as parfaitement raison, c'est pour ça que c'est pas de la sérénité que j'ai par rapport à Tottenham, parce que là la marche elle est énorme. Mais par contre imagine s'ils avaient perdu ne serait-ce que fait un match nul contre une de ces équipes-là dans les trois derniers matchs. On aurait dit, ils sont vraiment à out et tout. Non, là, ils ont fait des matchs sérieux et qui leur permettent d'y aller avec confiance. En tout cas, de ne pas avoir peur d'aller affronter Tottenham.
Absolument. Au contraire, d'affronter Tottenham, ça peut même faire progresser, puisque l'objectif, pour moi, un objectif logique et pas très ambitieux, optimiste, c'est de terminer seconde de ce groupe.
Je remercie Farid de nous avoir appelé ce soir. Farid, bon week-end et bon match mercredi.
Salut Farid.
À bientôt. Merci. Sur RMC. Salut Farid.
Salut Farid.
Julien Laurence est là. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien. C'était Auxerre aujourd'hui pour l'OM, Julien. Ce sera Tottenham mercredi. Premier match de Ligue des Champions. Tottenham qui a joué cet après-midi, qui a gagné contre Fulham. Troisième de Première Ligue. Tu as entendu la fin de notre débat. Comment tu juges Tottenham par rapport à l'Olympique de Marseille, le début de saison de l'équipe de Conte?
Ils sont bien, ils sont très bien, ils montent en puissance, on l'a vu aujourd'hui avec un match bien maîtrisé, peut-être même mieux maîtrisé malgré les quelques changements que Conte a fait pour faire un petit peu tourner, pour faire reposer certains. On a vu Clément Lenglet par exemple, le titulaire pour la première fois, jouer 90 minutes, qui était pas mal. Je sais pas s'il sera titulaire contre l'OM, mais en tout cas c'était bien pour lui de faire ses débuts comme ça dans un match pareil. On a vu Richarlison qui était pour l'instant un super sub un petit peu qui entrait en cours de match pour changer notamment la physionomie des matchs. On l'avait vu à Chelsea où il avait été très bon à son entrée en jeu, pareil contre Southampton. Là il était titulaire dans un rôle un petit peu différent, mais ça a plutôt bien fonctionné aussi pour lui. Donc c'est une équipe qui monte en puissance, c'est très solide, bien sûr c'est très solide. Ils sont invaincus cette saison, tu l'as dit, ils sont troisième en première ligue. Ça joue très très bien en contre, ça c'est le style Conte. Là ils sont en train aussi d'essayer de développer un jeu de possession parfois dans certains matchs, notamment à domicile comme on l'a vu aujourd'hui lors de la première période voire première heure, un petit peu plus efficace ce jeu de possession là qu'on l'avait peut-être vu la saison dernière par exemple. Conte a eu plus de temps pour travailler cet été, tu sens vraiment qu'ils sont en train de bien assimiler toutes ces méthodes, toute sa philosophie, tout ce qu'il leur demande, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est vrai que il commence par le plus gros morceau. De toute façon, Tottenham, ici à Londres, dans un stade magnifique avec 60 000 personnes derrière eux, pour les Marseillais, c'est le plus gros tout de suite.
Et d'ailleurs, je précise, donc il y a Tottenham, effectivement, c'est l'ogre de ce groupe. Mais n'oublions pas Francfort, qui a mis 4-0 au RB Leipzig, d'ailleurs, cet après-midi. Ce sera le deuxième adversaire de l'OM et le premier au Vélodrome dans 10 jours. Kane et Son, ça va toujours très bien, hein, Julien.
Pas Son. Son, c'est compliqué. Très compliqué cette saison. Alors, il a des occasions, mais il a toujours pas marqué.
Oui, j'avais l'impression que la relation entre les deux.
Il faut qu'il claque, Son.
Oui. Ok,
Mais Kane, ça va bien. Kane, c'est bien. Il a encore marqué. Il a marqué un but aujourd'hui. C'est bien dans tout ce qu'il fait. De toute façon, c'est le danger principal pour l'OM, quoi qu'il arrive. C'est la façon dont tu vas prendre Harry Kane au marquage, parce qu'il décroche tellement souvent pour devenir un numéro 10 finalement et lancer. C'est lui qui lance ensuite en profondeur, notamment un Hugminson par exemple, ou un Kulusevski, ou un Richarlison comme on voit parfois, ou un Lucas Moura. Mais il est aussi tellement fort dans la surface, donc il faut vraiment s'en méfier. Est-ce que tu laisses à chaque fois un défenseur central suivre Harry Kane partout finalement? Même quand il décroche vraiment, même quand il vient jusqu'au milieu de terrain. Mais ça aussi, ça veut dire aussi que si ton défenseur central le suit partout, qu'il y a parfois des espaces un petit peu autour de ton autre défenseur central par exemple, ou de tes deux autres défenseurs centraux. Donc ce sera à l'OM de bien gérer ça. Qui suit Kane et quand un milieu défensif quand il va très bas, un défenseur central quand il est plus haut, peut-être ce sera à eux de voir. Mais c'est vrai que la clé aussi c'est Harry Kane, il n'y a pas de souci. Pour Son, c'est plus compliqué cette saison. En revanche, attention au match où Son va se réveiller, parce que là, on parlait de klaxon tout à l'heure, là ça fera très mal. J'espère pour les Marseillais, ce ne sera pas mercredi soir.
Pas attention, hein, attention.
Et 23h48, coach en pleine forme, Roland, ça te réussit vraiment de faire les
affaires. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. C'est
pour moi. Oh là là, il se défausse comme un enfant là, avec 4 ans, coach. Merci Julien.
Roland, tu passes trop tes journées avec Stephen.
Ouais. C'est clair. À bientôt Julien, bonne suite de week-end à toi. Il s'est passé beaucoup de choses en Angleterre. On s'est arrêté sur Tottenham, l'adversaire de l'OM, mais on signera notamment le match nul seulement de City aujourd'hui, avec quand même un but d'Haaland. City qui a fait match nul aujourd'hui contre Aston Villa, match nul aussi pour Liverpool face à Everton, 0-0. 23h48, c'est l'after. Je vois vos commentaires sur le direct studio. Sébastien qui écrit: avec les recrues, le jeu de Tudor, on a peut-être une chance, mais il ne faut pas s'emballer. Il a été critiqué en début de saison et maintenant que l'équipe tourne bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a une ou deux défaites, ça va polémiquer. Pelota sur le hashtag RMC Live qui écrit: ça va jouer des Kane, Son, mais tranquille, l'OM va gagner. Je sens l'ironie dans ce tweet, Pelota. Mais j'ai Ali, dit: allez l'OM, la meilleure équipe française cette saison. 23h49, après l'OL, l'OM au programme. L'OL au programme. Lyon, quoi. Dans un instant, Lyon qui a battu Angers 5-0. Est-ce que l'OL est enfin convaincant cette saison? Supporter lyonnais, le 32-16, Adrien vous attend. Et à l'antenne, Lionel Charbonnier et Roland Courbis, ça tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot.
RMC jusqu'à minuit, l'Afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Lionel Charbonnier et Roland Courbis, merci d'être là. C'est l'After en direct jusqu'à minuit en ce samedi soir. Lyon enfin convaincant? C'est la question que je vous pose ce soir. Au 32-16, l'OL qui s'est imposé contre Angers cet après-midi. 5-0, Lyon qui est troisième du classement, provisoirement. 13 points, avec un match en moins, hein, 3 points de retard sur le PSG, l'OM. Et Lyon jouera son match en retard contre Lorient la semaine dernière. Coach, Lionel, votre avis sur cette OL qui gagne enfin largement cette saison, en tout cas, sans se faire peur véritablement contre Angers?
Oui, même s'il y a eu une occasion à 0-0 qui aurait pu inquiéter les Lyonnais, mais là, il n'y avait pas photo entre les qualités de Lyon et le peu de qualité de cette équipe d'Angers qui a perdu totalement confiance et qui est devenue vraiment inquiétante, malgré que si on regarde, il y a quand même quelques joueurs qui peuvent être très, très intéressants. Donc cette équipe de Lyon, ben on était pressé de l'avoir sans Paqueta. Donc il y a quand même un effectif capable d'être très intéressant, avec aussi des rotations importantes. Pas de Champions League, pas d'Europa League, donc pas de Coupe d'Europe. Donc on peut penser que cette équipe de Lyon, malgré le départ de Paqueta, peut être très intéressante dans ce championnat.
Lionel.
Oui, bah entièrement d'accord. Cette équipe de Lyon, pour moi, a évolué par rapport à l'année dernière. C'était à 2-0 l'année dernière, même contre une équipe d'Angers qui aurait pu être aussi inquiétante que ce qu'elle est actuellement, aurait pu se laisser aller en deuxième mi-temps et puis relancer cette équipe d'Angers. Là, cette année, c'est pas le cas. Cette année, Lyon enfonce le clou. Les remplaçants rentrent et font la différence. Dembélé a fait une bonne rentrée, comment il s'appelle aussi qui est rentré, enfin tout ce
Reine Adélaïde.
Reine Adélaïde, ils ont tous enfoncé le clou. T'en mets deux, tu gagnes 2-0 à la mi-temps et t'en mets 5 à la fin. C'est pas arrivé depuis combien de temps ça? Donc maintenant, ils ont changé quelque chose à Lyon, de garder cet état d'esprit, parce que j'ai toujours peur, et je pense que tous les supporters lyonnais, ça fait 2-3 ans quand même que ils ont vécu attention à la rechute, mais pour l'instant, c'est beaucoup mieux et cette équipe. Là, cet effectif-là me plaît dans cet état d'esprit.
On va leur demander. On a Sacha, supporter de l'OL, qui nous a appelé. Salut Sacha.
Bonsoir l'équipe, bonsoir messieurs.
Bienvenue dans la
salle. Salut Sacha.
Bon, merci. T'es content de ce 5-0, soulagé, ou comme le souligne Lionel, t'as peur déjà pour le prochain match contre Lorient?
Bon, alors déjà, j'étais au stade et déjà, il faut souligner l'ambiance qui était assez incroyable. Surtout contre,
le clapping, magnifique.
Ouais, très sympa. Très sympa, merci.
Bravo.
Lionel. Ouais, c'était cool. Non, franchement, je pense que ouais, il y a eu un très bon match, c'était maîtrisé dans l'ensemble. Après, bon, encore une fois, ça reste Angers et faut pas non plus s'enflammer, mais moi, si j'ai juste un flop à donner ce soir, c'est peut-être Cacré, que j'ai trouvé un peu en dessous par rapport au reste. J'ai trouvé Fèvre très intéressant dans son placement, ça se trouvait bien avec Lacazette, c'était assez intéressant. Et après, ouais, défense solide. Thiago Mendes me surprend de plus en plus à ce poste de défenseur central. Franchement, ce soir, encore une fois, il est bien placé, il gère bien. Et quel match aussi de Tagliafico, qui fait un super match sur son côté. Enfin, franchement, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais la grinta argentine, la fin de ballon, mec qui s'arrache de partout, c'est franchement assez incroyable. Et puis voilà, après, le but d'Alexandre Lacazette dans le jeu, qui, je pense aussi, va peut-être le débloquer un petit peu. Parce que ça râlait un petit peu en début de match, il n'y avait pas spécialement de ballon qui arrivait, mais encore une fois, ouais, le placement de Fèvre était intéressant ce soir parce que ça transitait bien. Et je l'ai trouvé très percutant et assez intéressant, et franchement, il m'a vraiment impressionné.
Lui, il avait été replacé, conséquence du départ de Paqueta, plus dans le cœur du jeu, Fèvre, et ça lui correspond peut-être un peu mieux. Merci Sacha, en tout cas, d'être venu nous voir ce soir dans l'after. Passe un bon week-end.
Salut,
et à très vite. L'OL qui jouera en milieu de semaine, non pas en Coupe d'Europe, mais son match en retard contre Lorient. Bon, voilà. Ça fera 3 matchs en une semaine. Il y aura un petit parfum de
possibilité de.
C'est un vrai plus pour Lyon,
d'arriver aux 16 points.
Comme le Paris Saint-Germain, l'OM et peut-être Lens qui jouera demain à Reims. Lionel, Roland, merci beaucoup. Bonne nuit à vous, les gars.
Salut Roland. Salut à tous.
Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir commenté l'émission, d'avoir appelé au 32-16. Passez une bonne nuit. L'after revient demain, 20h, bien sûr. Et le gros match de Ligue 1, le dernier de la 6e journée entre Nice et Monaco. Bonne nuit. Ciao.
RMC, l'after foot.